Vous allez en avoir besoin d'un avocat, évidemment.
Une audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Les antécédents judiciaires, vous avez déjà été
condamné.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur 92.2 et c'est Bruit d'audience. Donc Bruit d'audience, c'est tous les deuxièmes jeudis de chaque mois.
À presque 19h.
À presque 19h, quand il n'y a pas de faux départ. Et si vous souhaitez, vous pouvez nous appeler au numéro de Canal Sud qui est le 05 61 53 36 95.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse.
Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children.
Can we honestly say that America is a land with justice for all if we do not now exert every effort to eliminate this confederation of professional criminals, this dark, evil enemy within?
Three strikes and you are out.
Alors, quatre présidents, Nixon, Ronald Reagan, George Bush et Bill Clinton. Pourquoi ces quatre? Parce qu'ils ont marqué de leur empreinte la grande guerre que les États-Unis ont menée à la drogue du début des années 70, on va dire au début des années 2000. 30 ans de guerre à la drogue qu'on se propose un petit peu de décortiquer pendant cette émission. Pourquoi on a choisi cette thématique de la guerre à la drogue? Ben, tout simplement, avant de partir aux États-Unis, on était en France, à Toulouse, dans la salle 4 des comparutions immédiates. On se rend compte que la répression de stupéfiants envoie énormément de gens en prison, de gens pauvres, de gens des quartiers populaires pour des mois ou des années après des procès souvent absurdes de 30 minutes. On a entendu le ministre de l'Intérieur parler avec ce champ lexical de guerre à la drogue et on a voulu remonter un petit peu le fil et ça commence aux États-Unis au début des années 70.
Ouais. On va peut-être réécouter, juste pour le plaisir, cette citation de Nixon qui faisait partie du montage de Jonathan au début.
You want to join me here? Won't you be seated, please, ladies and gentlemen? Come on, Dr. Jaffe. Mr. Krogh, Mr. Rutland. Fine.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse.
Du coup, ça, c'était Nixon qui parlait en 71. On va donner quelques informations sur le contexte de l'époque. Les années 60, c'est les années des mouvements pour les droits civiques. Il y a eu une abolition définitive des lois Jim Crow à la fin des années 60, et il y a eu pas mal de lois fédérales qui ont été adoptées, qui ont mis fin à la ségrégation raciale sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Et notamment, le Civil Rights Act de 68 est assez connu, qui prohibe toutes les lois et réglementations ségrégatives sur l'ensemble du territoire. Mais pour autant, la ségrégation ne fait pas l'unanimité dans l'opinion, et notamment dans l'opinion des Blancs. Par exemple, la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté de 63 est rejetée par les deux tiers des Américains. Et d'après les sondages effectués par le New York Times en 64, les New-Yorkais voient majoritairement en Martin Luther King un extrémiste et jugent excessives les revendications sur les droits civiques. En 63, 59% des personnes blanches se déclarent favorables à l'interdiction des mariages interraciaux, 55% refusent de vivre à côté de personnes noires et 90% s'opposent à ce que leurs filles sortent avec l'une d'elles. Ça, c'est pour donner quelques éléments de contexte. Nixon, quand il lance la guerre à la drogue en 71, en fait, bon, ça c'est visuel, donc on l'entendait évidemment pas, mais il a de part et d'autre deux de ses conseillers. Et ces conseillers se sont plus tard exprimés sur cette période-là dans un bouquin, et on va vous lire un de ces morceaux.
L'équipe de campagne de Nixon en 1968 et la Maison Blanche par la suite avaient deux ennemis, la gauche pacifiste et les Noirs. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être pacifiste ou noir. Mais en incitant le grand public à associer les hippies à la marijuana et les noirs à l'héroïne, puis en criminalisant lourdement les deux produits, nous pouvions casser ces communautés. On pouvait arrêter leurs responsables, fouiller leurs maisons, briser leurs rassemblements et les diaboliser jour après jour dans les JT. Est-ce qu'on savait commenter à propos des drogues ? Bien évidemment.
Du coup, ce que le conseiller de Nixon explique ici, c'est qu'il veut agréger les votes des mécontents de la situation dont on a parlé tout à l'heure, et notamment il veut capter les voix des démocrates du Sud racistes.
En soi, cette criminalisation des produits stupéfiants à des fins discriminatoires, elle n'est pas nouvelle. Plusieurs historiens s'accordent à dire que la pénalisation de l'opium, notamment en Californie au début du XXe siècle, procède de la même logique. L'opium, à cette époque-là, elle est légale sur tout le territoire des États fédérés. Mais en Californie, il y a une immigration importante de population chinoise et les voix commencent à s'élever contre cette population qui prend le travail des blancs, etc. etc. Cette population d'immigration chinoise fume de l'opium, tient et s'enrichit aussi d'ailleurs grâce à des fumeries d'opium. C'est la raison pour laquelle, pour les réprimer, on va prendre une loi anti-opium à peu près dans les années 10-20. Et la même chose, la même logique a été à l'œuvre pour réprimer les populations migrantes venant du Mexique avec la prohibition de la marijuana.
Alors, on a décidé de commencer cette émission avec Richard Nixon parce que c'est le premier à avoir déclaré cette guerre contre la drogue. Mais pourtant, la guerre contre la drogue de Nixon, elle a été largement rhétorique parce qu'il ne propose pas réellement de changements significatifs dans la législation et dans les politiques publiques contre la drogue. Parmi les sommes allouées à la lutte contre la drogue sous Nixon, force est de constater que les deux tiers sont alloués à la prévention et au traitement, non à la répression. Mais après Richard Nixon, arrive Ronald Reagan et là, on rentre dans une nouvelle dimension.
I'm delighted to be here, but I want to say at the outset that
je suis ravi d'être ici, mais je tiens d'emblée à dire que je ne suis pas venu aujourd'hui pour faire un discours d'encouragement ou échanger des amabilités. Comme vous le savez tous, la criminalité est aujourd'hui une épidémie américaine. Quel genre de personnes sommes-nous si nous continuons à tolérer parmi nous un empire invisible et sans foi ni loi ? Pouvons-nous honnêtement dire que l'Amérique est un pays avec une justice pour tous, si nous ne faisons pas maintenant tous les efforts possibles pour éliminer cette confédération de criminels professionnels, cet ennemi de l'intérieur sombre et maléfique ? Cette augmentation de la criminalité, cette croissance d'une classe criminelle endurcie, est en partie le résultat de priorités gouvernementales mal placées et d'une philosophie sociale erronée. À la base de cette philosophie se trouvent des présomptions utopiques sur la nature humaine, qui considèrent que l'homme est avant tout une créature de son environnement matériel. En modifiant cet environnement par le biais de programmes sociaux coûteux, cette philosophie soutient que le gouvernement peut changer l'homme de façon permanente et inaugurer une ère de prospérité et de vertu. De la même manière, les actes répréhensibles individuels sont considérés comme le résultat de mauvaises conditions socio-économiques ou d'un milieu défavorisé. Cette philosophie suggère, en bref, que lorsqu'il y a crime ou méfait, c'est la société et non l'individu qui serait à blâmer. Mais ce qui est apparu très clairement ces dernières années, c'est qu'un nouveau consensus politique au sein du peuple américain rejette totalement ce point de vue. L'implication croissante des citoyens dans le problème de la criminalité et les nouvelles lois sévères adoptées par les États à l'encontre des récidivistes montrent clairement que le peuple américain réaffirme certaines vérités immuables. La conviction que le bien et le mal sont importants, que les individus sont responsables de leurs actes, que le mal est souvent un choix conscient et que le châtiment doit être rapide et sûr pour ceux qui décident de faire carrière en s'attaquant aux innocents.
On voit bien là que Reagan, il y va pas avec le dos de la cuillère. Il faut dire que presque immédiatement après l'apparition du crack, l'administration Reagan a sauté sur l'occasion pour en faire la publicité dans un souci d'assurer un vaste soutien à la guerre contre la drogue. Du coup, il y a une administration chargée de la lutte contre la drogue qui a embauché un type, Stoutman, pour attirer l'attention des journalistes sur la propagation du crack dans les communautés pauvres. Et il l'a raconté lui-même plusieurs années plus tard. Il a dit « J'ai commencé à faire du lobbying auprès des médias, ils ne demandaient qu'à coopérer, parce que pour ceux de New York, le crack était le sujet de reportage le plus chaud depuis la fin de la guerre du Vietnam. » Et là, je vais vous citer un extrait d'un bouquin dont on va beaucoup parler dans cette émission, qui est le bouquin de Michel Alexander, qui s'appelle « La couleur de la justice », et qui dit « Cette stratégie porte ses fruits. En juin 86, Newsweek déclare que le crack est le problème le plus grave depuis le Vietnam et le Watergate. En août de la même année, le magazine Time en fait le problème de l'année. Des milliers d'histoires sur le fléau du crack, toutes sous-tendues par un préjugé clairement racial, envahissent les ondes et les kiosques à journaux. Sans surprise, ces articles dressent des portraits de putes à crack noires, de bébés du crack et de membres de gangs, renforçant les stéréotypes raciaux en vigueur de la femme noire princesse des allocations, welfare queen, irresponsable et égoïste, et de l'homme noir prédateur, appartenant à une sous-culture inférieure et criminelle. » Et pour dire un peu l'ampleur que ça a pris, cette panique morale, d'octobre 88 à octobre 89, le Washington Post a publié à lui seul 1565 articles consacrés au fléau de la drogue.
Parce que si la guerre à la drogue s'intensifie avec le Ronald Reagan, elle va vraiment prendre une autre dimension au mi-temps des années 80. En septembre 86, Ronald Reagan va s'adresser à la nation, mais il ne va pas le faire tout seul, il ne va pas le faire à l'aile ouest de la Maison Blanche, il va le faire dans ses appartements, sur son canapé, à côté de sa femme Nancy Reagan. Pourquoi Nancy est là? Il nous l'explique très vite, c'est que Nancy, elle a des choses à dire, elle aussi, parce que la drogue tue, parce que la drogue tue des enfants, parce que la drogue rend les écoles dangereuses, et ils vont lancer tous les deux la campagne Just Say No. Alors, on verra que pour Nancy Reagan, cette campagne, elle a une dimension artistique. Pour Ronald Reagan, c'est autre chose. Et ce discours devant la cheminée, sur le canapé, assis à côté de sa femme, en bon père de famille, il est très martial. Parce qu'en fait, il va comparer la situation des États-Unis avec les GI américains débarquant en Normandie. Il va aussi prendre le soin de préciser à la toute fin de son allocution qu'il lui semblait important de s'exprimer depuis ses appartements, car autrefois, c'était le bureau du président Lincoln pendant la guerre civile.
Donc l'Amérique est en guerre.
L'Amérique n'est plus en guerre même à ce moment-là. L'Amérique est en croisade, une nouvelle croisade nationale qu'il lance avec Nancy. Et ça a donné des productions artistiques dont on peut peut-être écouter un premier temps fort.
Team. I don't need drugs, I got a higher thing. My sky hook makes a team look good, but there's a hook we gotta shake from the neighborhood.
My name is West, and on the court I'm rough. Out here on the street, we all gotta get tough. Say no to drugs, call the drug man's brother.
You call me Smrek, I give my team my best. When you really care, you can do no less. But the game of life is more serious, cause drugs make business of all of us.
My name is Michael, but they call me Cool. My main hangout is up around the hood. We play hard, but we still play smart. We never let drugs tear us apart.
I'm AC Green with the word. You can't win the game with your vision blurred. Train your child the way to go. And when the drug man comes, he'll say no.
Peut-être pas vous infliger le morceau jusqu'à la fin. Entre nous, d'ailleurs, il y a des polémiques. S'agit-il bien de rap ou pas? En tout cas, c'était les Lakers, l'équipe de basket de
Los Angeles.
Los Angeles.
Des deux équipes de basket de Los Angeles.
Je ne sais pas si les autres ont enregistré un morceau.
Les Clippers ont aussi enregistré un morceau.
Mais cette dimension artistique, elle est vraiment prolifique parce que là, on a un style de musique, bon, on l'appelle comme on veut, mais à destination peut-être d'un certain public. Et voilà une autre production à destination peut-être d'autres personnes qu'on se propose de vous faire écouter.
What's
Donc c'était Just Say No, donc une des nombreuses productions hein, qui a eu lieu dans cette campagne Just Say No to Drugs. Merrigan, les Reagan, c'est pas que des musiques sympas. C'est aussi beaucoup de moyens qui ont été alloués à cette guerre contre la drogue, et notamment beaucoup de moyens pour la police.
Ouais, c'est une époque où le nombre de contrôles a drastiquement augmenté. C'est-à-dire que les possibilités aussi de contrôle, de fouilles et de saisies ont été augmentées. Auparavant, il fallait quand même justifier le fait d'arrêter quelqu'un pour le fouiller. Là, du coup, la loi est progressivement, permet progressivement aux policiers d'arrêter absolument qui ils veulent pour n'importe quel prétexte futile, par exemple en voiture pour ne pas avoir mis son clignotant et de démonter complètement la voiture à la recherche de drogue. Voilà. Il y a aussi des incitations financières très importantes. C'est-à-dire qu'en 84, il y a une loi qui a été passée qui dit que les commissariats locaux ont le droit de conserver et de vendre les produits saisis en rapport avec la guerre à la drogue. Alors je ne parle pas de la drogue, je parle plutôt peut-être des voitures, des appartements, de ce genre de choses. Donc il y a un intéressement financier très important. Et en tout cas, toujours est-il que ça a déclenché une augmentation très 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 importante des contrôles qui, par ailleurs, évidemment, n'ont pas touché indistinctement tous les Américains et Américaines. Donc, bien sûr qu'elles ont touché plus particulièrement les Noirs des quartiers pauvres. Et pour vous donner un exemple qui est un peu postérieur à ça, mais qui est très révélateur, en 2008, le NYPD, c'est-à-dire la police de New York, contrôlait environ 545 000 personnes chaque an, et 80 d'entre elles étaient des Africaines américaines ou des Latinos. Un reportage du New York Times révèle aussi plus tard que la plupart de ces contrôles en fait se sont situés dans environ 8 blocs dans le quartier dans un des quartiers de Brooklyn, quartier majoritairement noir.
Oui, donc c'est vrai qu'il y a vraiment les contrôles qui s'intensifient. Hein. Pour vous donner quelques petits chiffres, un ordre d'idée, en 1980, il y a eu 9 600 000 personnes qui ont été arrêtées par la police aux États-Unis. Sur ces 9 600 000 personnes, il y en a 2 375 000 qui étaient afro-américaines. Ça fait 24% de la population, alors qu'ils ne représentent que 11% de la population globale en 1980. Et ça ne cesse d'augmenter. Hein. En 1993, il y a eu 11 700 000 personnes arrêtées. Et là, la proportion de personnes afro-américaines est encore plus grande, puisque c'était 31%, alors qu'ils ne représentent toujours que 12% de la population.
Alors, après les grandes lois de répression Reagan, Anti-Drug Abuse Act, il y en a eu deux. Donc 86, ça c'est après la cheminée Nancy, et 88, 2 milliards de dollars consacrés à cette fameuse croisade anti-drogue et des mesures phares, au nombre desquelles l'introduction de peines planchers incroyablement sévères. Une peine de prison minimale de 5 ans pour simple possession de 5 grammes de crack, même sans preuve d'une intention de la revendre. Parce que, comme le dit Reagan puis Bush après, la guerre à la drogue, elle doit être menée contre tout le monde, y compris contre les consommateurs. Nancy Reagan, dans un extrait qu'on a refusé que je passe, mais dit quand même que les consommateurs sont des complices de meurtre. Alors, il y a ces peines planchées, et il y a aussi le fameux rapport de 1%.
Ouais. Et avant, je veux juste rajouter une petite chose sur les peines planchées. C'est que pour se donner une idée là, pour 5 grammes de crack, c'est 5 ans de prison obligatoire. Avant qu'ils fassent passer cette loi, la peine maximum pour détention de drogue, quelle que soit la drogue, était 1 an de prison. Donc il y a quand même un basculement majeur là-dessus. Et du coup, le fameux rapport de 1%, en fait, c'est que le crack, la détention, la consommation de crack est punie 100 fois plus durement que la possession de cocaïne. C'est-à-dire que, alors que, comme on l'a dit, il faut 5 grammes de crack pour être envoyé en prison, il en faut 500.
Mais ça n'a aucun sens, on sait, ça n'a aucun sens.
Il faut 500 grammes de cocaïne pour avoir la même peine de prison.
Sachant que c'est le même produit.
Sachant qu'il faut l'un, finalement, pour fabriquer l'autre. D'ailleurs, ça a quand même suscité un peu de colère chez certains magistrats eux-mêmes. On a un extrait là, par exemple, d'un juge qui en parle.
Je m'appelle Mark Bennett. Je suis juge au tribunal du district de l'Iowa du Nord. En 15 ans d'exercice, j'ai envoyé plus de 2600 personnes dans les prisons fédérales.
Alors, il a envoyé plus de 2600 personnes dans les prisons fédérales à cause précisément de ces peines planchées qui lient complètement le juge. Hein, il n'a pas le choix, c'est une espèce de machine. Et il a essayé, lui, pendant un moment, de résister, si on peut dire, c'est-à-dire de pénaliser, de réprimer de la même manière le crack et la cocaïne, c'est-à-dire d'appliquer un rapport 1 pour 1. C'est la même peine pour 1 gramme de crack que pour 1 gramme de cocaïne. Il n'a pas été le seul à faire ça, mais c'est un des plus connus. Et systématiquement, toutes ces décisions ont été cassées par la Cour suprême. Alors on peut s'interroger sur pourquoi cette différence entre la répression du crack et de la cocaïne.
Bah alors là,
s'il n'y a pas de fondement scientifique.
On peut s'interroger sur si ce ne serait pas une différence de traitement de ces populations.
Bien sûr, parce que le crack est plutôt associé aux communautés noires, tandis que la cocaïne est plutôt associée aux communautés blanches. Et c'est vraisemblablement ce qui explique cette différence de 100, tu vois, de 1 à 100 entre le traitement de l'un et de l'autre. De toute façon, comme on l'a dit, on continue sur la lignée raciste de la guerre à la drogue. On en a parlé dès ses fondements avec Nixon, et ça continue comme ça tout au long de son histoire.
We'll be right back.
vous a passé le morceau Red Eyes de War on Drugs.
Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2, bruit d'audience.
Absolument.
Alors Reagan n'a qu'un temps et les élections vont amener un autre président à la Maison Blanche qui n'est autre finalement que celui qui aura été son vice-président pendant ces 8 années précédentes. Il s'agit de George Bush. Attention, George Bush père, comme on dit, pas Walker. Il est allé à la suite de Reagan et il va continuer, il va renforcer la répression, il va trouver que ce que Nancy et Ronald ont fait était très bien, mais ils n'ont pas fait assez. Donc il annonce en grande pompe la création d'un nouveau programme de création de prison et qu'il faut s'en prendre sans faillir à tout le monde, y compris les utilisateurs. C'est toujours cette même logique et rhétorique guerrière. Et là, on commence à parler d'incarcération de masse. Mais finalement, La pierre la plus importante à cet édifice, elle va être apportée quelques années plus tard par un président démocrate. Alors, vu de France, on a l'impression souvent que les démocrates, c'est la gauche, les républicains, c'est la droite. Alors, pourquoi pas? Mais c'est bien Bill Clinton qui, en 93, va passer un Bill of Crime, une loi fédérale. On propose de l'écouter.
Three strikes and you are out.
Donc, three strikes and you are out. Désolée pour mon accent, qu'est-ce que c'est? C'est à la base, en fait, une règle de baseball. Mais dans la loi de Bill Clinton, c'est beaucoup moins drôle. Cette mesure, elle impose, en fait, automatiquement une peine allant de 25 ans de prison à la perpétuité pour des auteurs de crimes ou de délits qui sont qualifiés, qui récidivent pour la deuxième fois, donc pour leur troisième crime. Three strikes and you're out. Donc il y a un exemple qui est célèbre, dont on avait beaucoup parlé à l'époque, d'un jeune homme qui avait pris 25 ans de prison pour avoir volé une pizza. Pour avoir volé une pizza, mais c'était la troisième fois.
Ils sont revenus dessus depuis, non? Est-ce qu'ils n'ont pas... C'est une loi qui a été supprimée, j'imagine, depuis?
Alors, c'est la loi de Clinton, elle concerne que c'est une loi fédérale qui concerne que les délits les délits fédéraux. Donc il faut quand même que dans certains de ces délits il y ait des délits fédéraux et après c'est par état, ils décident ou pas finalement mais en tout cas ils peuvent le faire.
En tout cas, l'empilement de ces lois répressives pendant 20 ans a fait que ça a démultiplié le nombre de prisonniers. En 2000, le nombre de prisonniers aux États-Unis dépasse 2 millions. Et pour comparaison, en 1970, il n'y en avait que 207 000. Donc c'est vraiment une multiplication par 10. Mais attention, la situation est encore pire que ça, parce que ça, c'est une photographie à l'instant T de la situation carcérale. De là, aujourd'hui, maintenant, il y a plus de 2 millions de personnes en prison. Mais si on compte l'ensemble des gens qui sont passés en prison, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Certains avancent même le chiffre de 45 millions. Mais je vais quand même préciser, avant de passer la parole à Marine, que ça, c'est pas que des personnes qui ont été mises en prison à cause de la guerre à la drogue. C'est des personnes qui ont été... Il y a un tournant répressif majeur à partir des années 80, quand on voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en prison, et pas du tout seulement pour ce délit-là.
Et de toute façon, la règle « three strikes and you are out » ne concerne pas que les stupéfiants et les délits pour les stupéfiants.
Et donc voilà, cette inflation carcérale, elle continue. En 2001, on estime qu'il y a 5,6 millions d'Américains qui étaient vivants, qui étaient déjà passés par la case prison. Ça fait 2,7% de la population. Donc 5,6 millions, c'est énorme. Alors, à titre de comparaison, en 1974, ils auraient été 1,8 million. En 2003, et ces statistiques, elles émanent du ministère de la Justice, c'est pas... Donc, bon. En 2003, le ministère de la Justice états-unien, il prévoyait qu'environ un homme noir sur 3, un homme latino sur 6 et un homme blanc sur 17 devraient aller en prison au cours de leur vie, si les taux d'incarcération de l'époque, donc de 2003, restaient inchangés. Et pareil, si les taux de première incarcération restaient inchangés, le service statistique du ministère de la Justice y prévoyait que 6,6% de toutes les personnes nées aux États-Unis en 2001 seraient emprisonnées au moins une fois dans leur vie. Et ils étaient 1,9% en 1974. Donc c'est vraiment, vraiment une inflation carcérale. Hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces personnes qui sont passées par la casse-prison, ça ne s'arrête pas à leur sortie. Une fois qu'elles sont sorties, les choses ne sont pas finies et elles subissent encore des discriminations.
C'est ça. Et certaines de ces discriminations vont durer toute leur vie. Parce que ça aussi, c'est des choses qui ont été décidées par, dans l'ensemble des lois dont on a parlé jusqu'à maintenant, par Reagan et par Clinton. Quand on a un casier judiciaire, on ne peut plus prétendre aux allocations, à certaines allocations. Quand on a un casier judiciaire, on ne peut plus faire de demande de logement social. Par ailleurs, les employeurs ont le droit de demander à avoir ce casier judiciaire, et du coup, il est évidemment plus difficile de trouver du travail dans ces circonstances. Enfin, il y a tout un tas d'exclusions de droits sociaux comme ça, qui sont à l'œuvre après la sortie de prison, certaines pour quelques années, d'autres définitivement, ça dépend aussi des États. Mais par exemple, il y a, dans certains États, l'interdiction de voter est définitive, l'interdiction de participer à des jurys est définitive aussi. Sans parler du fait, bon ça n'est pas une discrimination légale, mais sans parler du fait qu'il y a une part considérable de prisonniers qui sortent avec des dettes très importantes, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui sont payantes. Par exemple, le travail des services de probation et de réinsertion peut être payant. Ou alors, dans le cas de la drogue, justement, le test qui est fait est payant aussi. L'injonction de soins qui peut être ordonnée par le juge est payante aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que les personnes qui sortent de prison vont sortir très endettées, sans pouvoir prétendre à un logement social, en ayant par ailleurs beaucoup de difficultés nécessairement à retrouver du travail. On imagine la situation. Et c'est notamment, on le doit dire pour ce président démocrate, Clinton, qui a largement durci la législation sur ce point. Il a durci l'exclusion des anciens prisonniers de certains droits sociaux. Il a complètement là-dessus adopté l'agenda racial des conservateurs sur la question de l'aide sociale. Donc par exemple, sa réforme déclare inéligible à vie les anciens prisonniers pour obtenir l'aide alimentaire et les allocations sociales. Toute personne accusée d'infraction à la législation sur la drogue. Et on parle d'infraction à la législation sur la drogue, on parle de simple détention, simple possession, on parle pas d'autre chose, quoi. Il a aussi autorisé les programmes d'accès au HLM subventionnés par l'État fédéral à exclure toute personne ayant un casier judiciaire. Et juste à titre anecdotique, c'est pas exactement le cas, mais pendant le mandat de Clinton, Washington a réduit le financement du logement social de 17 milliards de dollars, ce qui constitue une diminution de 61%. En revanche, il a augmenté le financement du système pénitentiaire de 19 milliards, ce qui est une revalorisation de 170%. Du coup, et ça a fait, comme certains auteurs l'ont fait remarquer, ça a fait de la construction de prisons le principal programme de logement destiné aux populations pauvres. Alors il y a des choses plus anecdotiques, dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que toutes ces lois ont aussi privé de la possibilité de faire des prêts étudiants une personne inculpée pour une infraction liée à la drogue. Et on a un extrait de, pour revenir à la question des bailleurs sociaux, on a un extrait de Clinton qui en parle.
If you break the law, you no longer have a home in public housing.
Donc Clinton qui dit si vous enfreignez la loi, vous n'avez plus votre place dans les logements sociaux.
Les démocrates. Ouais. Bon, la guerre à la drogue, elle n'a pas concerné indistinctement tout le monde.
Oui, c'est ce qu'on disait pour les contrôles policiers, c'est que tout ce qu'on a décrit là va cibler. La guerre à la drogue, elle a ciblé principalement les Africains américains.
Et ça, c'est la thèse qu'on retrouve hein, dans l'ouvrage de Michel Alexander, qu'on a déjà évoqué, qui s'appelle en français « La couleur de la justice », mais qui, dans le titre original, s'appelle « The New Jim Crow ». Et le titre original, c'est « The New Jim Crow », parce que Jim Crow, c'est ces lois qu'a évoquées Marie au début de l'émission, ces lois ségrégationnistes. Et en fait, la thèse d'Alexander, c'est de montrer comment la guerre contre la drogue, elle a été justifiée pour justifier une incarcération massive, particulièrement des Afro-Américains, et donc pour en fait arriver à une nouvelle ségrégation. Hein. Pour elle, ça a servi de prétexte, cette guerre contre la drogue, pour réduire les droits des Afro-Américains, comme exactement ce que vient de dire Marie, les droits sociaux, et pas juste pour incarcérer. Voilà. Et donc ça continue aujourd'hui, hein. Faut dire que c'est pas terminé, hein. Les Afro-Américains représentent aujourd'hui encore 38% de la population carcérale, alors qu'ils représentent que 12% de la population globale.
Oui, là-dessus, faudrait juste pour ajouter quelque chose. Par exemple, je disais tout à l'heure que le passage en prison faisait qu'on était exclu des jurys. On peut ne pas voir tout de suite le rapport avec la ségrégation, mais comme effet très très concret que ça peut avoir, c'est-à-dire que là, quand on est quand on passe devant un jury, ça multiplie les chances que ce soit un jury de blanc. Et l'autre truc dont on entend souvent parler ici, c'est que en fait, il y a tellement de gens qui sont passés par la prison et qui du coup n'ont pas récupéré, n'ont plus le droit de vote, que à chaque élection américaine, on entend dire que si tous les anciens prisonniers avaient le droit de vote, peut-être que ça pourrait même, ça représente tellement de personnes que ça pourrait même changer le résultat des élections présidentielles.
Et là, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé hein, des Afro-Américains qui ont, c'est vrai, payé un lourd tribut à cette guerre contre la drogue et à cette incarcération de masse aux États-Unis. Mais ces politiques, elles ont ciblé également les autres minorités raciales hein, qui se retrouvent vraiment surreprésentées derrière les barreaux. Angela Davis, elle a d'ailleurs dans son ouvrage qui s'appelle s'intitule « Les prisons sont-elles obsolètes ?», constater que cette surincarcération dont sont victimes les Afro-Américains, elle a tendance à faire oublier les discriminations qui ciblent d'autres minorités, notamment comme les Amérindiens. Les Amérindiens, il faut savoir qu'ils représentent 0,9% de la population totale des États-Unis, et c'est du coup souvent les oubliés des statistiques carcérales. Les oubliés des statistiques tout court, d'ailleurs, parce qu'aux dernières élections, ça avait fait un peu scandale, puisqu'il y avait une case où c'était quelque chose d'autre, something else. Et pourtant, donc, dans les États où la population amérindienne est importante, les taux de surincarcération des Amérindiens sont considérables. En Arizona, les Amérindiens comptent pour 11% de la population pénale, alors qu'ils représentent que 4% de la population globale. Et dans d'autres États, c'est encore pire. Dans le Montana, ils représentent 6% de la population et ils représentent 22% de la population carcérale. Donc on voit bien que cette incarcération massive, elle touche prioritairement toutes les minorités aux États-Unis.
Aujourd'hui, il y a quand même un recul comme ça de la guerre contre la drogue. Je pense que ça a commencé à faire salement scandale au début des années 2000, de plus en plus, à tel point que par exemple, Obama, c'est pas tant qu'il s'en est excusé, mais qu'il a quand même dit tout à fait publiquement que ça avait eu des effets problématiques.
Oh, oui, il a dit que ça avait eu des effets problématiques et d'aucuns ont vu là l'espoir de voir un petit peu aboli ce rapport idiot dont on a parlé tout à l'heure, du 1%.
Et alors, qu'a fait Obama ? Il l'a aboli quand même.
Presque, à 82%. maintenant, le rapport est de 1 pour 18. Bon, ça n'a toujours aucun sens au niveau répressif ou de santé publique, mais c'est quand même une sacrée diminution. Alors, et Bill Clinton aussi, il a été un petit peu chahuté pendant les dernières campagnes, parce qu'il faisait campagne pour Hillary et puis s'est fait interpeller, notamment par des membres du mouvement Black Lives Matter, sur Three Strike and You Are Out, dont on a parlé tout à l'heure. Et bon, il y a une vidéo, on mettra le lien, il devient tout rouge, il s'énerve. Il dit au début que s'il a fait ça, c'était parce qu'il n'avait pas de majorité, que s'il ne faisait pas ça, jamais les républicains n'auraient voté tel ou tel projet de loi social. Et puis à la fin, il s'énerve en disant « mais finalement, qui protégez-vous ? Vous protégez les criminels, vous protégez des tueurs d'enfants, etc. » Et la réunion tourne au court. Il n'est pas impossible que ça ait empêché Hillary Clinton cette tâche à l'ombre du mandat de Bill Clinton d'accéder à la présidence. Bon, mais 45 millions de personnes incarcérées en 30 ans, on pourrait se dire, bon, est-ce que ça a eu un effet, au moins au niveau santé publique, cette histoire ?
Ben en fait, pas du tout. Ça a été un échec complet au niveau santé publique. Et aujourd'hui, la guerre contre la drogue n'a pas été gagnée, on peut le dire. Et Et à une drogue en succède une autre. Et aujourd'hui, les États-Unis sont dans ce qu'on appelle la crise des opioïdes hein, depuis une quinzaine d'années, avec notamment le fentanyl, qui est un opioïde donc, de synthèse, qui cause chaque année énormément de morts. Grosso modo, en 2017, il y a eu 80 000 overdoses mortelles hein, dues à des opioïdes, dont un bon tiers était dû au fentanyl. Hein. Et ce qu'on voit, donc en fait, le fentanyl, aujourd'hui, s'il est si massivement consommé par les Américains, c'est parce qu'il fait suite à des prescriptions massives des médecins américains d'opiacés pour traiter des douleurs qui, normalement, ne devraient pas être traitées avec des opiacés aussi puissant, hein. Ça a fait scandale, hein. C'est les labos pharmaceutiques qui ont fait pression sur les médecins pour que les médecins prescrivent ces opiacés, hein. C'est notamment la famille Slacker, qui est une famille assez connue parce que c'est des grands mécènes, hein, notamment du marché de l'art. Voilà, donc c'est des scandales dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et qui ont eu des conséquences tragiques au niveau santé publique. Sauf que ces drogues, elles sont consommées par qui ? Elles sont consommées majoritairement par des blancs de classe moyenne. Et donc là, quand c'est des blancs de classe moyenne, qu'est-ce que se dit le gouvernement ? Il se dit « Ah, mais peut-être, c'est pas très sympa, en fait, d'enfermer les drogués. »
Et donc, par contre, il a trouvé une autre solution, non ?
Voilà. Du coup, il y a eu quand même un changement, un changement de paradigme sur la manière de traiter la toxicomanie aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a énormément de campagnes. Aujourd'hui, on distribue dans la rue des inhalateurs qui permettent de contrecarrer les overdoses. Il y a énormément de campagnes de sensibilisation. Et l'idée est quand même de mettre l'accent sur la santé et sur le fait de soigner les drogués plutôt que de les enfermer, quoi.
Et du coup, avec ce recul de la guerre contre la drogue, il y a quand même une légère baisse du nombre de prisonniers aux États-Unis. Je pense que depuis 2008, ça baisse un peu. Je pense au pic du nombre de prisonniers, je pense qu'il y en a eu 2 300 000, quelque chose du genre. Et là, on doit être aujourd'hui à 1 700 000. Donc c'est à la fois une baisse réelle sans qu'on puisse du tout dire qu'on est sorti de l'incarcération de masse. Après, comme on disait tout à l'heure, l'incarcération de masse, c'est pas juste la drogue, c'est pas juste la guerre à la drogue. On considère habituellement qu'il y a peut-être une personne sur cinq dans les prisons américaines qui est là pour une question de drogue.
Après, faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a 113 millions d'adultes aux États-Unis qui ont un membre de leur famille proche qui a déjà été incarcéré. Donc c'est quand même colossal. Et que l'incarcération, c'est qu'un élément d'un système qui est beaucoup plus vaste, hein, de contrôle, parce que le système de justice américain, il contrôle 5,5 millions de personnes. Il y a 5,5 millions de personnes sous main de justice,
comme on dit en France.
Donc il y en a 1,9 million qui sont effectivement en prison, mais il y en a 2,9 millions qui sont en liberté surveillée, et 770 000 qui sont en liberté conditionnelle.
Bon. C'est un peu affligeant. Et ce qui est d'autant plus affligeant, c'est que cette guerre à la drogue, cette incarcération de masse, cette guerre aux drogués et cette guerre aux pauvres, avec les résultats qu'elle a eus, elle va être importée en France. Et c'est un petit peu ce qu'on vous propose de voir lors de la prochaine émission. Le ministre de l'Intérieur, comme on le disait tout à l'heure, a fait sienne, avec Sarkozy avant lui, cette rhétorique de la guerre à la drogue. Alors, elle a commencé, hein, comme aux États-Unis, au début des années 80. Elle a donné aussi, comme aux États-Unis, finalement, l'occasion à des artistes de s'exprimer. Et peut-être que on peut vous donner un petit avant-goût de cette créativité contre la drogue et pour la répression.
On va pas se laisser accrocher, dealer, meurtrier.
Bon, on me dit que cette chanson est un petit peu trop longue, c'est dommage. Alors, c'était Dealer, mère de Dealer, de France Cartini. Alors, là, c'est pas la campagne Just Say No, c'est un geste artistique totalement spontané et totalement libre. Voilà.
Et si vous voulez en savoir plus du coup sur ça, sur cette chanson et sur la guerre à la drogue en contexte français, il faudra nous écouter le mois prochain et ce sera le 14 décembre, ce sera toujours sur Canal Sud 92.2.
Et à 19h, il faut être ponctuel.
Et à 19h, on essaiera de l'être cette fois-ci. Et on va se quitter en chanson. Ah, si vous souhaitez nous écrire, n'hésitez pas, c'est Bruit d'audience, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31 400, Toulouse. Et on se quitte en chanson avec le groupe Utopie. Et la chanson, c'est Incendiaire.